Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Polygraphe.
La modernisation de la police.
Recueil écrit en prison.
Relations diplomatiques.
Confluence hispanique.
Dans le champ de la citoyenneté.
Caïman Barbudo.
Le mouvement autonome.
Entre l'université et la société.
Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Exterior d'Espagne. Aujourd'hui, rencontre avec Arnaud Dolidier, doctorant Casa de Velázquez. Sujet, champ politique et syndical en Espagne. Le champ politique et syndical en Espagne et son évolution depuis la transition de la fin des années 70 est le sujet d'étude de M. Arnaud Dolidier. M. Dolidier, moi je vais commencer presque par la fin, même si évidemment le mouvement du 15 mai, le mouvement des indignés date déjà, on n'en a pas l'impression, mais il date déjà de 5 ans. Et les choses se sont transformées. Alors, ce mouvement du 15 mai, certains pensent qu'il a été récupéré, d'autres pensent qu'il n'existe plus, qu'il a disparu. Quelle est la situation réelle ?
Par rapport au mouvement du 15 mai, moi, ce que j'ai étudié, c'est surtout la manière dont le champ journalistique, dont les journaux, dont la presse écrite, ont permis, en tout cas ont travaillé sur une resignification des catégories pour appréhender ces acteurs qui ont émergé sur les places publiques, qui se sont organisés, qui ont réactualisé des pratiques notamment issues du monde libertaire, hein, qu'on peut retrouver au moins depuis les années 30 en Espagne, et qui a surpris un peu tout le monde. Et face à la surprise d'un événement, on se doit de l'interpréter pour lui donner du sens. Ce que j'ai travaillé, ce que j'ai vu, ce que j'ai appréhendé à travers les journaux, c'est que c'est la presse écrite qui elle-même en fait les a qualifiés d'indignés. C'est avant tout une catégorie journalistique, médiatique. À l'inverse, ces mêmes journaux ont requalifié une partie des acteurs de ce mouvement d'un terme qui est maintenant connu dans le langage commun en Espagne, qui est le terme d'antisystema. Et l'antisystema, ce que j'ai vu à travers mon travail, à travers l'épluchement de la presse écrite, c'est que l'antisystema est un acteur qui est défini par une radicalisation de ses pratiques et qui est dénué de toute parole. Hein, on lui prête en fait des actes subversifs, entre guillemets, qui agissent en fait sans aucun discours. Donc voilà, on a très vite, durant ce mouvement du 15 mai, eh bien, resignifié une division, une dichotomie entre les acteurs, entre ceux qui parlent dans le champ de la citoyenneté à travers des pratiques acceptées par le pouvoir politique et d'autres non, donc los antisistemas. Et cette division, cette dichotomie entre les acteurs, certains légitimés, d'autres non par le pouvoir et par les discours journalistiques, c'est un peu ce qu'on retrouve bien avant dans les années 70. Et là, il y a un travail, une généalogie à faire des catégories du pouvoir.
Voilà, parce que Arnaud s'intéresse beaucoup, je l'ai déjà dit, à cette phase de la transition. Et on a bien l'impression que, pas les pratiques, mais certaines tendances, de la transition continue à être présente à l'heure actuelle. C'est-à-dire, on commence par avoir un mouvement des commissiones obreras, que tu as bien étudié, qui sont des groupes syndicaux un peu partout en Espagne, qui se coordonnent plus ou moins à une organisation qui, du coup, a un centre et le centre impose. Mais c'est à ce prix-là que la transition s'est faite. Il fallait contrôler, politiser le moins possible.
Alors moi, j'essaye de prendre certaines questions à rebours, contrairement à des historiens qui ont analysé la transition pour comprendre ce qui s'est fait et comment ça s'est fait. Alors c'est une lecture assez téléologique de la part d'une partie de l'historiographie, c'est-à-dire qu'elle prend pour point de départ les effets pour en déterminer les causes. Personnellement, j'essaie de me décentrer de cette manière de faire de l'histoire. Pas moi personnellement, mais à travers aussi toute une méthodologie, toute une série d'ouvrages. Et concernant les commissions ouvrières, ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est de voir comment des dispositifs, hein, dans le sens foucauldien du terme, hein, un dispositif, un rapport de savoir-pouvoir, comment ce dispositif-là, un dispositif syndical, c'est peu à peu construit sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sur cette petite commission ouvrière, donc commission ouvrière sans majuscule, et qui était vraiment des commissions dans plusieurs usines, dans plusieurs entreprises, notamment dans la région de Madrid, à Barcelone, et aussi bien sûr au Pays Basque, hein, sans oublier le Levant. Et qui peu à peu, sur une dizaine d'années, et ensuite bien évidemment en 1976, qui est vraiment l'année charnière, l'année clé, se sont transformés en syndicats. Ils sont passés de mouvements sociopolitiques à syndicats. Et ce processus-là a impliqué, eh bien, un dispositif, encore une fois, pour neutraliser, contenir, orienter, réguler toute une série de mobilisations ouvrières qui allaient véritablement à contre-courant des intérêts de l'opposition démocratique en général et des syndicats en particulier. C'est ce qu'a montré Ferran Gallego dans son ouvrage El mito de la transición. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie, semilla de un mañana victorioso, cimiento de una patria elemental. Se trata de arrancar, nunca se regaló la libertad. Hay que apretar el puño y caminar. Hay que juntar la fuerza y caminar.
Repito, es vital. La libertad para nosotros es el derecho de reunión, el derecho de manifestación y el derecho de huelga. Solamente a partir de usar de todo esto podemos naturalmente tener un equilibrio de fuerzas, un cierto equilibrio de fuerzas.
Y en fait, tu donnes plusieurs exemples de ce choc entre le mouvement centrifuge et les aspirations des groupes un peu partout, par exemple au Pays Basque, quand une cellule de Comisiones Obreras proteste. Mais tu centres, peut-être, tu nous invites à nous intéresser à l'affaire Scala et aux anarchistes. Parce que les anarchistes, par définition, sont ceux qui refuse toute action centrifuge. Mmh. Alors, l'affaire Scala, en deux mots.
L'affaire Scala, en deux mots, un montage médiatico-politique instauré, en tout cas, par les forces de la brigade politico-sociale franquiste pour discréditer totalement ce qu'on pourrait appeler le mouvement libertaire de l'époque. Oui. Donc, c'est un attentat qui a eu lieu à Barcelone en janvier 1978, qui a impliqué quatre jeunes anarchistes qui ont lancé des cocktails de Molotov sur une salle des fêtes, et cette salle des fêtes a pris feu, hein, et plusieurs ouvriers, plusieurs travailleurs sont morts, dont un ouvrier qui était lui-même syndiqué à la CNT.
Sorprendentemente, la policía solo tardó 48 horas en dar con los autores. El 17 de enero de 1978 fueron detenidos varios jóvenes de entre 17 y 20 años, todos ellos afiliados al sindicato anarquista CNT, justo en el momento en el que la CNT estorbaba ciertos intereses. Era el único sindicato mayoritario que se oponía al pacto social que daría lugar a la democracia, ya que exigían una separación total entre sindicatos y Estado. Algo olía a gato encerrado.
Souvent, justement, surtout ces dernières années, on reproche à la transition ou à l'histoire officielle de la transition de n'avoir retenu que les pactes entre les dirigeants de partis et la bonne volonté mise par l'un ou l'autre, etc. Mais c'est comme si au niveau social, au niveau des luttes sur le champ laboral et tout ça, il ne s'était rien passé. Est-ce que c'est la sensation qu'a quelqu'un qui finalement a du recul? Parce que Arnaud, c'est beau, je crois que c'est plus simple d'avoir du recul quand on vient de France, quand on observe la réalité espagnole, que quand on a là le nez dessus.
Oui, encore une fois, c'est une question très difficile. Parce que en Espagne, moi, ce que je remarque, c'est surtout la persistance véritablement du mythe de la transition. C'est-à-dire ce mythe qui considère que le processus de changement politique. Hein, j'essaie même d'éviter de parler de transition, parce que transition, c'est un mot qui ne dit pas grand-chose en fin de compte sur le processus en lui-même. ce mythe est encore vivace. Mais depuis quand même une bonne vingtaine d'années, les historiens espagnols, je pense à les historiens notamment du mouvement ouvrier comme Carmen Molinero, Pere Isas ou José Baviano ici à Madrid, ont contribué à montrer que la transition est véritablement que la démocratie en Espagne est le fruit de toute une série de luttes sociales, de batailles politiques et syndicales. Voilà, moi j'essaye de prendre en tout cas ce point de départ pour ensuite développer tout mon travail. Alors le recul lié au fait que je suis extérieur au pays, peut-être, ça je n'arriverai pas à le déterminer véritablement. En tout cas, j'essaye moi-même de prendre du recul par rapport à certains discours politiques qui parasitent un peu... mon travail.
Ce cheminement de formatage, de mouvements sociaux très divers, de mouvements sociaux très libres, les cercles par exemple, les petites organisations qui se sont formées, qui étaient très informelles justement, autour des indignés, pour aboutir maintenant à un parti comme Podemos. Finalement, il se passe la même chose. Est-ce qu'il est possible de faire de la politique si on ne centralise pas, si on ne construit pas une structure qui s'inscrit dans la centralisation?
Alors, encore une fois, c'est compliqué. Bon, tu as parlé de te positionner. Personnellement, je considère, à l'instar d'autres historiens et philosophes, qu'il faut se positionner pour faire des sciences sociales. Donc, je prends parti... tout en ayant à l'esprit une méthodologie rigoureuse et convaincante pour démontrer cette prise de parti. Podemos est un parti qui se construit sur le mouvement des indignés, comme tu l'as dit, mais qui maintenant n'a plus rien de l'héritage dont il se revendique, si ce n'est peut-être quelques assemblées de zonas qui d'ailleurs n'ont même pas leur mot à dire par rapport au comité central. Je ne sais plus si il s'appelle comité central, mais c'est un parti avec une structure de parti très classique. Voilà, je dénigre pas le parti, mais c'est un parti qui se revendique de l'héritage assembléiste alors qu'il n'y a plus rien, en vérité, d'assembléiste dans ce parti. Pourquoi ? Parce que pendant la transition, ce qu'on appelait le mouvement assembléiste, c'est avant tout une organisation et une coordination par le bas. Les ouvriers votent dans leurs assemblées des délégués qui sont eux-mêmes élus et révocables, qui font des assemblées de délégués mais qui est contrôlée par l'assemblée générale. Cette assemblée générale-là donne lieu à d'autres assemblées, des assemblées par exemple dans la métallurgie, comme tu l'as dit, de zones avec les gens de quartier, etc. Donc véritablement tout un fonctionnement avec des normes, des règles importantes qui font de l'assemblée le lieu du politique avec le principe de sa souveraineté. Ensuite, pour savoir si on peut faire de la politique et coordonner ce bas vers le haut, eh bien, ça demande de la coordination. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'anciens militants des années 70 qui se revendiquaient de l'autonomie ouvrière, qui est voilà, toute une idéologie politique qui essaye de se dégager du marxisme-léninisme et des idéologies traditionnelles du mouvement ouvrier, pour eux, le grand enjeu, c'est justement la coordination de ces assemblées au niveau local, au niveau comarcal en Espagne, donc régional, et ensuite au niveau national. Ça s'est fait au Pays Basque, ça s'est fait en Catalogne, et ça a toujours été, parasité, en quelque sorte, par le mouvement syndical qui voyait là quelque chose de très grave, qui pouvait mettre en péril ses objectifs politiques. Ça, encore une fois, l'opposition démocratique en mars 1976... fait tout pour essayer de déconstruire, de démonter le mouvement assembléiste qui naît à Vitoria avec la grève générale au Pays Basque, voilà, qui est très fort. En toute Espagne, solo suena un crack. En Occidente, solo se oye un
En Espagne, c'est très clair. UGT est adossé au Parti Socialiste. Mmh. Et Comisiones est adossé au Parti Communiste au départ et après Izquierda Unida. Mmh. Et donc, il est difficile de ne défendre que des revendications sociales, des travailleurs, etc., sans tenir compte de la ligne politique du parti et des intérêts des partis à tout moment.
Oui, si je peux me permettre, du coup, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de faire en sorte que le monde ouvrier se cantonne à des revendications économiques et que le politique, véritablement le lieu du politique, se fasse dans le Parlement. Donc il fallait légitimer aussi le fait que les partis soient le lieu où la politique se fasse. Donc quand un mouvement assembliste arrive et quand les ouvriers ont des revendications politiques, eh bien ça fait mauvais genre. Ces revendications politiques n'ont rien à faire là. Il faut véritablement les transposer aux partis qui, eux seuls, doivent avoir la légitimité. C'est la construction de nos démocraties parlementaires modernes. C'est l'enjeu de la transition.
Ça, c'est le cas espagnol, mais je suppose que tu as aussi mené des analyses un peu comparatives. Et c'est le schéma qui a été suivi partout en Europe ?
Ça dépend de quel pays on parle. Le Portugal, c'est encore autre chose. Hein. C'est un processus où un processus révolutionnaire naît, qui d'ailleurs, on va dire, détermine en grande partie l'action des élites politiques espagnoles. L'Italie, c'est un pays qui m'intéresse plus dans la mesure où beaucoup de militants ont fait des voyages en Italie. Hein. 1970 en Italie, c'est l'autonomie, hein. Tout s'azimute dans les quartiers, dans les usines, c'est l'opéraïsme, hein. Donc une nouvelle idéologie politique qui se crée avec Toni Negri. C'est Bologne, et c'est ce qu'on appelle les années de plomb, mais encore une fois, les années de plomb, c'est un récit dominant qui masque l'éclosion d'un processus révolutionnaire. La France, c'est encore autre chose. En tout cas, ce qui est intéressant de constater au niveau du monde syndical, c'est que le fonctionnement classique syndical, au début du post-franquisme, donc de la mort de Franco, le fonctionnement syndical classique, on va dire, devient l'idéal des élites syndicales en Espagne. Ils font tout pour ne pas perdre l'apport assembliste, hein, pour pas se discréditer aussi du monde ouvrier en général, mais avec cette idée que les syndicats doivent véritablement devenir les seuls interlocuteurs. En gros, ils doivent acquérir le monopole de la représentation du social. Voilà.
Et on donc, peut là, considérer que c'est réussi, entre guillemets, ça, en Espagne.
En tout cas, pendant la transition, ce qu'on appelait les mouvements assembléistes ont perdu, en quelque sorte. En tout cas, ils ont été masqués et dominés discursivement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voyait plus qu'ils existaient, alors qu'ils existaient encore. Hein. Il y a toute une mémoire alternative qui renaît aujourd'hui en Espagne, avec le mouvement des indigènes.
Je disais ça un peu ironiquement, oui. Parce que je suppose que tu sais qu'il est impossible, par exemple, de réunir une assemblée générale et déclarer une grève dans les entreprises si les syndicats ne sont pas partie prenante.
Exactement. Oui.
Les directions ne parlent qu'aux syndicats et toute initiative assembléiste meurt dans l'œuf.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à une interview de Rosell, hein, donc le chef du patronat espagnol, qui en mai 2015 dans une interview à La Vanguardia, disait « Il nous faut des syndicats forts pour lutter contre les mouvements assembléistes ». C'est dit comme ça. Alors, cette phrase est symptomatique du fait que le patronat demande des syndicats pour lutter contre l'émergence de pratiques considérées comme subversives. Donc, on voit bien à quoi sert le syndicalisme. C'est vraiment un appareil de coercition, en tout cas certaines formes de syndicalisme dominantes, à des appareils de coercition au service du patronat. Donc là, on a un rapprochement significatif pour lutter véritablement contre l'émergence de nouvelles formes d'action collective dans le bas, au bas des entreprises. Oui. Moi, le sujet de ma thèse, exactement, c'est je travaille sur la manière dont des discours reformulent des pratiques pendant la transition.
C'est une thèse que tu as déjà soutenue. C'est une thèse terminée, soutenue.
C'est une thèse en cours d'écriture.
En cours d'écriture.
Soutenable, qui sera soutenue en novembre 2016, plus ou moins, décembre, novembre-décembre.
C'est tout proche, ça.
Oui, hein, oui, c'est bientôt.
C'est bientôt. Ton séjour à Casa de Velázquez, c'était en fait pourquoi ? Pourquoi tu avais envie au besoin, je ne sais pas, de venir à la Casa Velázquez pour pouvoir mener à bien ta thèse. Est-ce que c'était important ou indispensable, même ?
Pour moi, c'était indispensable. C'est lié déjà à l'aspect financier de la question. Pouvoir se consacrer entièrement à la recherche sans avoir une charge de travail salariée à côté. Et ensuite, c'est lié à des choses très pratiques, mes archives, hein, les archives à Madrid, par exemple les archives des commissions ouvrières, la Fondation Primero de Mayo, la somme de documents que je peux trouver à la Bibliothèque Nationale d'Espagne, mais aussi j'ai des archives en Catalogne. Bref, il fallait que je sois sur le terrain, en péninsule ibérique. Donc ça, et l'aspect
financier.
Un bilan
positif.
Ah oui, très positif, oui. Oui, oui. Bah, ça me permet de pouvoir finir ma thèse dans les temps. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you, fellow workers, until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Come all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you
Confluence Hispanique, un programme proposé par Emmanuel Zahar avec Pedro Berastegui à la réalisation. Musique, Victor Manuel, ni nos doblaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar. Nacho Vega, como hacer crack. Peter Seeger, which side are you are? Documents utilisés, archives RTVE.